par ces polémiques woke, par la cancel culture. Est-ce qu'il y a une spécificité de la musique comme art et de la musicologie? Alors, on a vu par exemple ce que ça donne dans le champ de l'opéra, qui est particulièrement touché par des revendications diverses de nature identitaire, ou bien par des polémiques, notamment aux États-Unis, dans le champ des études musicologiques, qui ne me semblent pas trouver vraiment l'équivalent dans d'autres types d'études, d'autres arts. Donc voilà, je pense qu'on va comprendre la spécificité de la musique dans son rapport aux remises en cause par le wokisme. La première intervenante de cette table ronde est Catherine Kinsler, qui est professeure honoraire à l'Université de Lille. Elle a enseigné aussi une vingtaine d'années en lycée. Ses travaux portent sur la philosophie de l'art et sur la philosophie politique. Ses principaux ouvrages publiés sont « Penser la laïcité »,« Qu'est-ce que la laïcité ?»,« Condorcet, l'instruction publique et la naissance du citoyen », »,« Jean-Philippe Rameau, splendeur et naufrage de l'esthétique du plaisir à l'âge classique », »,« Poétique de l'opéra français » de Corneille à Rousseau et « Théâtre et opéra à l'âge classique ». Nous connaissons bien son site web, mesetules.fr. Si vous ne le connaissez pas encore, eh bien, c'est une ressource extrêmement riche en articles sur les sujets qui nous préoccupent. Donc le site mesetules, mezetule.fr. Et elle va nous parler de la culture de l'expiation dans les études musicologiques.
Voilà, le son est réactivé. Est-ce que vous m'entendez ?
Il faut mettre plus fort.
Est-ce que vous m'entendez, là ?
Oui, Jean-Catherine, on vous entend. Ça va très bien. Parlez bien proche du micro. Voilà, merci.
Je m'approche un peu de mon micro. Bien, merci beaucoup pour cette invitation. Et j'ai intitulé cette petite communication « Manuel abrégé d'expiation pour musicologue dix-septiémiste ». Il suffit d'ouvrir un magazine musical pour prendre la mesure de la vague prétendument antiraciste et inclusive qui déferle sur le monde musical à grand renfort de culpabilisation et d'autoflagellation. Hubert Ekman en a donné un aperçu tout à l'instant. J'ai préparé un petit florilège que je montrerai éventuellement dans la discussion. Et c'est jusqu'à la notation musicale qui est soupçonnée de racisme. Alors ne parlons pas des Indes galantes ni du bourgeois gentilhomme. J'ai choisi de commenter un exemple significatif par sa modeste dimension, par sa banalité et par la remarquable concentration qu'il offre des procédés expiatoires mis en œuvre par l'épuration culturelle. Je les énumère brièvement: contrition par auto-accusation identitaire, aveu d'une faute inconsciente inconnue du coupable, culpabilité par filiation, repentance exigée et retournée pour être versée au dossier des circonstances aggravantes. Alors voici l'histoire. En juin 2020, le président d'une société musicologique états-unienne de 250 membres, la Society for 17th Century Music, donc ce sont des 17e, écrit aux adhérents avant son colloque annuel et les informe que le bureau va engager une politique inclusive d'antiracisme. Alors j'ai cette lettre en document, je pourrais la montrer tout à l'heure. Si je la montre maintenant, je vais mettre à gloser et ça va durer 25 minutes. Je vous donnerai la référence. À travers la mise en place d'un comité de la diversité et de l'inclusion, il s'agit de favoriser des chercheurs et des objets d'études relevant de groupes minoritaires issus de la diversité, dirait-on ici. Intention louable qui fonctionne cependant avec un paradoxe. Voici le raisonnement: puisque nous, universitaires blancs, avons été jusqu'à présent complices et agents involontaires d'un privilège blanc, d'une blancheur comme norme, dans le choix de nos objets d'études, dans celui des chercheurs que nous soutenons, prenons des mesures pour que ces choix soient à l'avenir guidés non par un souci d'égalité en droit, mais par un critère opposé et volontaire, le décentrement de la blancheur. « Decentering whiteness ». Alors on passe, c'est très classique, hein, on passe d'un critère discriminatoire impensé, le privilège blanc, à son inverse, un critère discriminatoire explicite. Le bouleversement consiste à inverser des attributs, blanc, inconscient, remplacé par non-blanc et conscient, et à conserver la substance, discrimination, l'affirmative action. Pour corriger une faute, il faudrait donc en commettre une autre de même nature, mais symétrique. Alors cette lettre concentre l'essentiel, en un paragraphe pratiquement, un ou deux paragraphes, l'essentiel des procédés mis en œuvre par ce que j'appelle moi l'épuration culturelle. Le moteur central est la culpabilisation. Un sentiment de culpabilité générale, lié par essence à une couleur de peau, est suscité par l'accusation d'une complicité des études musicologiques avec le racisme, l'esclavagisme et le colonialisme. La notion de complicité a pour fonction de permettre des rapprochements dans le temps par héritage, par succession, et dans l'espace par ressemblance. De proche en proche, on va pouvoir considérer quelqu'un comme lié par héritage, legacy, à des crimes, des délits, des fautes commis par ses ancêtres, par ses prédécesseurs dans la carrière, par l'un des siens, ceux qui lui ressemblent, mais qu'il n'a pas commis lui-même. Faisant partie d'un groupe qui est predominantly white, même si vous n'êtes pas coupable directement de racisme, vous êtes coupable de ne pas reconnaître la filiation du racisme en vous-même. Il s'agit de vous mettre en état d'effectuer cette reconnaissance, d'en faire l'aveu. On reconnaît la technique de la fable, le loup et l'agneau. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère, c'est l'un des tiens. Le point fort de la lettre, qui est très bien faite, est la qualification de cette complicité. Elle est inconsciente par définition. Unintentional complicity. Il n'y a donc pas lieu de l'établir. C'est un phénomène social général auquel nous, c'est les Blancs, n'échappons pas. S'érigeant en analyste sauvage et en procureur qui a décelé votre vérité, l'accusateur bien-pensant saura donc vous la faire avouer. Sur ce principe, on pourra donc décider que quelqu'un, du fait même qu'on l'assigne à un groupe, est impliqué par essence dans un dispositif répréhensible. Il faut lui faire prendre conscience d'une faute qu'il ignore, mais que l'inquisiteur, lui, connaît d'avance. Mieux, que l'intéressé se défende, qu'il nie, ce sera un effet de son inconscience, une preuve de son aveuglement. Mené par des procureurs dont la conscience extralucide, autoproclamée, n'est pas effleurée par le doute, mais guidée par le soupçon, la suite d'un tel procès en conscientisation n'est pas nécessairement pénale, bien sûr, elle est avant tout morale sur des modèles qu'on a déjà vus à l'œuvre, jadis et naguère, l'exorcisme, l'expiation, la rééducation. Il en a été question tout au long de ces journées. Pleine d'humilité, la lettre en appelle à une autorité qui l'inspire, qu'elle paraphrase souvent, et qui la transcende. Elle recommande en effet la lecture d'un texte qu'elle rend accessible par un lien actif. Là, c'est pareil, je vous ai préparé un document avec ce lien, vous pourrez noter la référence. Ce texte impératif est intitulé « White Academia, Do Better ». Il est signé de Jasmine Roberts, enseignante à l'université d'Ohio, et il surclasse de loin en vigueur la lettre qui s'en prévaut. Il ne s'embarrasse pas de susciter un cru scrupule moral, scrupule qu'il traite d'ailleurs et assez plaisamment comme une contorsion dérisoire. C'est une série de sommations sans appel. 10 commandements sont adressés aux universitaires blancs sur ce qu'ils doivent faire afin de s'améliorer. Ces commandements n'admettent aucune réserve, aucune critique. On y apprend que l'autoflagellation et la repentance sont des manières de rester centré sur soi-même et de prolonger, sur un mode larmoyant, le privilège blanc. L'aveu de la faute est donc encore une faute, un péché narcissique. Un miroir féroce est tendu à nos musicologues dix-septiémistes, renvoyés à un nombrilisme pleurnichard, et ils se contemplent avec plaisir, complaisamment dans ce miroir. Toute objection est d'avance disqualifiée comme relevant de ce que, en France, on appellerait une crispation de privilégiés. On en a connu naguère la version stalinienne qui qualifiait de petite bourgeoise toute velléité critique. Le gauchisme militant en a repris bientôt le schéma par la fameuse et systématique interrogation « D'où parles-tu ?». En lisant ce texte de référence, je pouvais croire à une fiction, comme j'ai pu le croire en regardant la fameuse vidéo sur l'université Evergreen. Mais ces nouveaux inquisiteurs sont bien réels. La question n'est plus de savoir si les ordres qu'ils donnent ont pour finalité l'égalité des droits, la justice sociale, la concorde. On sait qu'ils ont pour effet et probablement pour objet la segmentation de l'humanité. La question est de savoir si ceux qui les donnent ont le pouvoir de les faire respecter. Donc il faut résister. Et résistance institutionnelle, telle que celle que nous avons, dont nous avons parlé ce matin, dont il a été question ce matin, mais aussi résistance conceptuelle, comme il en a été question dans la table ronde sur l'école. Alors, je devais m'arrêter là, mais je pense que je peux prendre peut-être une minute de plus pour ajouter un point en annexe. Nous avons appris hier le décès de l'immense comédien Sidney Poitier. Ce sera peut-être l'occasion de revoir, entre autres, le grand film de Norman Jewison de 1967, Dans la chaleur de la nuit, d'après le roman de John Ball. Les deux enquêteurs s'y affrontent dans le climat raciste du sud des États-Unis de la fin des années 50. Et c'est l'exercice de la raison, et lui seul, qui fait qu'ils prennent petit à petit congé, l'un et l'autre, et ils prennent congé de leurs préjugés respectifs. Ils en reviennent, ils s'éloignent de ce qu'ils croyaient être l'un et l'autre. Se figer dans un rôle de victime ou dans celui d'un coupable plein de contrition n'a rien à voir avec un travail sur soi-même. Ça consiste à rester là où on est. Donc je rejoins cette table ronde sur l'école que je viens d'entendre. Il faut réouvrir le moment fondamentalement critique du savoir, celui de la rationalité qui consiste en un dépaysement, pouvoir s'éloigner de ce qu'on croit être et de ce à quoi on est assigné. C'est cette transformation de soi-même que permet l'accès au savoir, à l'art et à ce que l'humanité a fait de mieux. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour cet appel à la transformation de soi-même. Je vais passer la parole à présent à Dania Tchalik, qui est pianiste, professeure d'écriture musicale et d'harmonie au Conservatoire de Strasbourg et à la Haute École des Arts du Rhin. En parallèle, il a publié ces 10 dernières années, notamment sur Mesétules, le site de Catherine Kinsler, des articles consacrés aux évolutions de l'enseignement musical spécialisé dispensé dans les conservatoires français, et plus particulièrement aux dérives liées à la crise de l'enseignement et des politiques culturelles à l'œuvre depuis bientôt un demi-siècle. Ses réflexions s'appuient sur son expérience de musicien, mais aussi sur son parcours personnel, car il est né en URSS et y a débuté sa formation. Dania Tchalik va donc nous parler du wokisme avant le wokisme.
Merci. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je pense. Merci tout d'abord aux organisateurs pour cette table ronde et le colloque en général. Alors, on va faire donc un petit détour pour mieux revenir au sujet, car à première vue, les polémiques qui se multiplient ces derniers mois à l'étranger dans le domaine de la musique ne semblent affecter la France que de façon marginale. Mais pourtant, les affaires qui se multiplient ces derniers temps et qui ont été relatées par la presse, je pense en particulier au recours au cabinet privé Egae pour lutter contre les violences sexuelles au Conservatoire de Paris, ou alors les projets de programmation dite inclusive à l'opéra, montrent que les revendications identitaires d'origine anglo-saxonne sont bel et bien en voie d'activation. Plus précisément, elles viennent se greffer sur un processus de déconstruction mené de longue date au sein même des politiques culturelles françaises. En mai 81, l'arrivée de Jack Lang, rue de Valois, et donc le passage de la France de l'ombre à la lumière, annonce un nouvel âge d'or de la culture française, mais cette manne financière ne va pas sans contrepartie. L'emblématique slogan « Tous artistes » peut être rétrospectivement vu comme un manifeste du relativisme culturel et par là même d'idéologie inclusive avant l'heure. Contrairement à ce qui prévalait sous Malraux, l'intention n'est plus d'élever le niveau culturel de la population, ce qui reviendrait à lui infliger une violence symbolique, mais bien d'accueillir l'expression artistique de l'individu telle qu'elle est. L'action publique devient alors communication de masse en vue de la consommation et de la socialisation en priorité. La fête de la musique est bien sûr l'emblème de cette révolution culturelle à visage humain. bien qu'émanant d'une minorité agissante peu représentative du monde musical, cette idéologie constitue dès lors un leitmotiv du discours institutionnel, de l'état culturel, tel qu'il a été défini alors de son apogée, autour de 1990, par Marc Fumaroli et Michel Schneider. Je m'appuierai ici sur le dernier numéro de décembre 2021 de La Lettre Musicien, qui est un titre qui fait référence dans la profession. Et ce numéro, comme vous le voyez, est consacré à la diversité. Il contient, entre autres, un entretien avec le sociologue Bernard Lehmann, qui est un exemple, vraiment un must de la vulgate bourdieusienne fossilisée. Et d'autre part, alors, il ne marche pas. Il n'y a plus de. Voilà. Donc cette revue contient également un article du compositeur Fabien Lévy, dont la version longue que vous voyez ici a été publiée dans la revue allemande Neue Musikzeitung en avril 2021. Si vous lisez le début, vous voyez tout de suite que c'est un manifeste woke, mais il s'inscrit également dans la continuité de la vague de déconstruction précédente. Alors, pour imposer durablement ce relativisme, le pouvoir a notamment pris soin de transformer la formation des musiciens, c'est un point très important, jusque dans sa nature et ses missions. Il y promeut un discours ouvertement antirationnel et anti-intellectualiste, dont voici quelques traits saillants. Les savoirs scolaires sont considérés comme morts. Exemple, les cours de solfège, d'ailleurs il ne faut plus dire solfège mais formation musicale, ce qui est une tautologie, et d'harmonie, déformeraient l'oreille des enfants et les empêcheraient d'aimer la musique du temps présent et de ceux à venir. Donc un refus du passé. Deuxième point, le conservatoire est accusé d'être coupé de la société. Je cite Fabien Lévy, un cocon de cours spécialisés et d'étudiantes travaillant sans relâche leurs traits dans une atmosphère atemporelle. Alors, encore une fois, ça montre le lien entre la déconstruction des années 80 et celle d'aujourd'hui. Il faut au contraire qu'ils deviennent une ruche, je cite un directeur de conservatoire bien dans le vent, ou alors, plus récemment, d'autres directeurs de conservatoire parlent de plateforme Airbnb ou de tiers-lieu. Bien sûr, toutes ces personnalités de gauche se réfèrent à un modèle politiquement et socialement très orienté. Pour y parvenir, il faut gommer la hiérarchie entre le professeur « personne ressource », je cite, dont l'identité professionnelle doit être soigneusement déconstruite grâce aux sciences de l'éducation, tiers-lieu. Donc, c'est un article de La Lettre du Musicien qui montre que c'est une expression très à la mode et qui véhicule une idéologie. Et alors là, on voit le lien entre les sciences de l'éducation et la dérive woke, c'est-à-dire que vous avez devant vous une formatrice de formateurs de formatrices, je cite, qui est originellement professeur de formation musicale, donc, ou plutôt de déformation, vous allez voir, parce que le travail, au lieu d'apprendre les enfants à chanter, travailler les intervalles, travailler leur oreille, apprendre à lire, etc., leur fait réaliser, c'est eux qui réalisent, une histoire de la musique, plutôt une chronologie, identitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a que des femmes dans cette frise chronologique. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui, et donc en voici le résultat. Voilà. Voilà. Oui, je m'y retrouve. Voilà. Bien sûr, de ce pédagogisme découle un sociologisme. Il se décline en deux versants. Le versant compassionnel. On justifie la baisse d'exigence des contenus enseignés par la nécessité de répondre à une supposée demande sociale en faveur d'une pratique de loisir. De ce fait, on découpe les publics en tranches selon une logique déjà de type communautaire. Version accusateur, cette fois. La musique classique est par essence une musique de riches, de vieux, aujourd'hui on ajouterait de mâles blancs, intimidante pour les classes populaires et les minorités. Bref, une pure construction sociale qui, pour être acceptée, doit se renier en étant, par exemple, revisitée par un geste contemporain ou par les musiques dites actuelles, ce qui ferait penser que la musique classique ne le serait pas. On va passer au suivant. Après la doxa anti-élitiste et l'injonction de l'utilité sociale, on assigne à l'art une mission politique. Il ne s'agit pas seulement de créer dans sa tour d'ivoire, mais, je cite, de lutter contre l'extrême droite, Fabien Lévy, ou de transmettre une attitude. Là, on est en plein dans l'idéologie totalitaire. Une manière d'être artiste aujourd'hui. Pour distinguer l'art politique de celui qui ne le serait pas, vaste problème, on installe un nouvel académisme subversif qui met en scène deux oppositions, l'artisanat versus la spontanéité du geste, qui n'est que le résultat d'un long travail, bien sûr, mais il ne faut pas le dire. Et le patrimoine dit réactionnaire, on désigne par là la tradition musicale post-1750, en particulier celle du XIXe siècle et ses multiples prolongements, versus la création, si possible, expérimentale. Alors, je n'ai rien contre l'expérimentation, bien sûr, mais il ne faudrait pas qu'elle devienne une fin en soi et non plus un moyen au service d'un discours expressif. La réduction arbitraire d'une esthétique donnée, quelle qu'elle soit, à une étiquette politique permet alors, dans un second temps, un autre mécanisme, cette fois typiquement woke, c'est-à-dire la réduction de l'œuvre d'art à la biographie de son auteur. L'examen des qualités intrinsèques de l'œuvre, encore une fois, quelle qu'en soit l'esthétique, passe alors par pertes et profits, il est remplacé par une culture de la dénonciation. Ironie de l'histoire, en URSS, on accusait les compositeurs de se livrer au galimatia musical, le fameux article de la Pravda, possiblement signé par Staline en personne, et un formalisme musical bourgeois et réactionnaire, alors que dans la France, dans les années 80-90, avec des conséquences bien moins dramatiques, bien sûr, cependant, ceux qui utilisaient un langage basé sur l'alternance tension-détente ou une pulsation rythmique perceptible étaient taxés de nostalgie, voire de péténisme. À quelques décennies d'intervalle, un même procès en réaction vient frapper des objets esthétiques pourtant diamétralement opposés, ce qui montre l'inanité donc de la réduction de l'objet esthétique à une idéologie politique prise de façon systématique. Mais donc cette radicalité finit par se heurter au réel, inévitablement. L'écoute musicale ne peut évacuer le besoin de se référer à la mémoire et à des repères dans le temps, tant musical et tant historique. Quant à ceux qui pensent que l'interprétation des œuvres du passé consiste simplement à lire les notes, alors qu'il s'agit bien davantage de lire entre les notes, ils ignorent sans doute la description faite par Proust de l'art de la Berma dans Le Côté de Guermantes. Je cite, « Autour de l'œuvre, une seconde œuvre vivifiée aussi par le génie. » Rappelons aussi le propos de Ravel dans son esquisse autobiographique de 1928 avec la distinction entre la conscience et la sincérité de l'artiste. Je cite, « La seconde n'est d'aucun prix si la première ne l'aide pas à se manifester. Cette conscience exige que nous développions en nous le bon ouvrier. Mon objectif est donc la perfection technique. » Alors, la question se pose, comment en est-on venu à une telle banalisation de la pensée de système qui les musiciens le savent, c'est l'ennemi juré, l'esprit de système, l'incompétence et le manque de sensibilité artistique. Bien sûr, on constate une certaine bureaucratisation de l'administration et des institutions de transmission du savoir où l'homme de métier a été remplacé peu à peu par l'énarque, puis par le manager. On va passer au fond. Sans surprise, la démocratisation, entre beaucoup de guillemets, tant invoquée, a largement manqué sa cible, malgré les moyens mis en jeu. Et la persistance incantatoire du discours réformateur en est une preuve parmi d'autres. Mais à partir du moment où un contenu de vérité est réduit à un rapport de pouvoir, l'énonciation du discours est susceptible d'être assimilée à sa propre réalisation. On peut alors, comme Fabien Lévy, tenir un discours post-adornien sur la réification de l'œuvre d'art, la fétichisation de la musique du passé, et en même temps demander qu'on accepte que la passion de l'écoute attentive ne soit à nouveau réservée qu'à une élite, c'est-à-dire, je cite, une minorité quasi monomaniaque. On peut aussi approuver, comme le fait Bernard Lehmann, la discrimination positive et en même temps encore souhaiter que les musiciens issus de la diversité soient du même niveau que les autres, malgré toutes les mesures démagogiques prises pour les en empêcher. Déplorer les effets, chérir les causes. Finissons tout de même sur une note positive. Il n'est pas certain que les militants les plus enragés aillent jusqu'à mettre à exécution leur velléité de détruire la civilisation occidentale. Un sociologue qui se respecte n'irait tout de même pas jusqu'à vandaliser lui-même les dorures de l'opéra. Et dans la société du spectacle, un compositeur souhaitant se montrer a tout intérêt à publier une tribune indignée accusant la musique classique et romantique avec son intolérable prétention à l'universalité d'être l'émanation d'un, je cite, « monde eurocentré, phallocrate et colonialiste, si ce n'est raciste ». Certaines hiérarchies sont tout de même bonnes à être conservées. Et l'abus du discours performatif révèle la véritable nature de ces postures, la stratégie de carrière et la reconnaissance par les pairs, d'autant plus impérative que les places deviennent chères en temps de crise. L'acclimatation du wokisme se greffe alors, on peut le dire, peut être interprétée comme une ruse du management, c'est-à-dire détourner les revendications légitimes de la base, c'est-à-dire que les musiciens sont actuellement soumis à la crise et il y a énormément de précarité dans le milieu. Mais donc, il s'agit de détourner ces revendications et renouveler l'allégeance de la frange institutionnalisée du milieu. On constate donc qu'il s'agit d'une réplique, je parle du wokisme, d'une première vague de déconstruction qui vient réactiver le terreau multiculturaliste préexistant. Alors, que faire ? On a parlé tout à l'heure, Charles Coutel a parlé tout à l'heure de s'émerveiller. Mais s'émerveiller suppose de comprendre. Parce que quand vous amenez, pour anticiper sur la table ronde suivante, quand vous amenez un élève, par exemple, ou toute personne non familiarisée avec l'art au musée, est-il capable de discerner immédiatement le chef-d'œuvre d'une œuvre quelconque ? La réponse est évidente. Donc, veut-on véritablement transmettre les connaissances et la sensibilité artistique ? Donc, la première chose à faire, c'est peut-être de rompre avec l'idéologie relativiste et que les pouvoirs publics prennent véritablement le taureau par les cornes et décident que, l'art doit être transmis. Deuxième point, il faut réellement que le ministère devienne davantage celui de la culture que celui de la communication. Deuxième point, nous faut-il un nouveau ferry. Je m'explique. Actuellement, l'organisation administrative du secteur musical est atomisée, éparpillée entre plusieurs ministères. Ministère de la culture, bien sûr, pour tout ce qui est aide à la création, mais aussi fonction publique territoriale pour l'enseignement artistique spécialisé, et ça, c'est un gros problème. Et enfin, l'enseignement supérieur et la recherche. Et tout ça n'aide pas à poursuivre des politiques cohérentes. Donc, il faudrait rationaliser tout ça et peut-être avoir moins d'interlocuteurs. Et enfin, le problème de la pédagogie. Le wokisme rentre dans le milieu par les formations pédagogiques, alors que tout le monde sait que pour apprendre la musique, il faut des pédagogues qui pratiquent et des formateurs pédagogiques qui eux-mêmes favorisent cette transmission au lieu de l'empêcher. Donc ça, c'est un point fondamental. Merci de votre attention.
Merci beaucoup. Nous allons à présent écouter un intervenant à distance, Nicolas Meus, qui est professeur émérite de Sorbonne Université. Il a traduit en français « Der freie Satz », l'ouvrage posthume de Schenker, sous le titre « L'écriture libre ». Quelques autres de ses écrits se trouvent en traduction française sur son site internet nicolas.meus.free.fr. En Sorbonne, il a créé le cours d'analyse schenkerienne et fait un certain nombre d'autres cours portant en particulier sur l'histoire de la théorie et de l'analyse musicale depuis le Moyen-Âge. Il va nous parler des attaques récentes contre le schenkerisme et des allégations de racisme à son encontre.
Merci. Je vais. Est-ce que tout le monde m'entend ? Est-ce que tout ça fonctionne bien ? Je vais vous parler plus précisément de hiérarchie des notes et hiérarchie des races. Et je commence par le contexte. Philip Ewell, professeur associé à la City University of New York, a donné le 9 novembre 2019 une keynote address à la réunion annuelle de la Society for Music Theory, dont le texte a été publié sous le titre « Music Theory and the White Racial Frame », théorie musicale et le cadre racial blanc, dans le numéro 26 de Music Theory Online, la revue en ligne de la SMT. Ewell s'y attaque notamment de manière virulente aux théories racistes de Heinrich Schenker, qui a vécu de 1868 à 1935, et qui est l'un des plus grands théoriciens de la musique au XXe siècle, dont le rôle en outre a été déterminant pour la mise en place de la théorie musicale dans l'université américaine, notamment parce que nombre de ses disciples avaient fui dans les années 1930 vers les États-Unis, et déterminant aussi son rôle déterminant pour la création de la Society for Music Theory elle-même en 1977-1978. L'absence de Timothy Jackson, qui devait participer hier à une de nos tables rondes, m'oblige à rappeler brièvement la suite de tout ceci. Le Journal of Schenkerian Studies, que Jackson dirigeait, a publié en 2021 un symposium répondant aux critiques d'Ewell. Les membres de la Society for Music Theory ont, en réponse, publié un texte par lequel ils demandaient la censure, c'est le terme qu'ils utilisent, la censure de Tim Jackson. L'University of North Texas a supprimé le journal. Jackson a intenté un procès à son université qui est toujours en cours. Ce n'est pas mon sujet. Je voudrais relever un point, peut-être mineur, de la critique de Philip Ewell à l'encontre de Schenker, celui qui associe une hiérarchie des notes, qu'il dit caractéristique de la théorie schenkerienne, à une hiérarchie des races et à des idées racistes de Schenker lui-même. Ewell écrit que les croyances de Schenker sur la vie et sur la musique étaient nourries de ses vues sur les hiérarchies raciales et nationales. Il souligne notamment le langage que Schenker utilise pour discuter de ses croyances hiérarchiques. Et il écrit, je cite, Wayne Halpern, qui est un autre musicologue américain, Wayne Halpern a montré combien Schenker était dépendant de ses études de droit lorsqu'il a conçu ses théories musicales. Schenker était aussi dépendant de ses vues juridiques lorsqu'il a écrit à propos des races. Sa prose était imprégnée de pensées juridiques lorsqu'il a parlé des lois de la nature telles qu'elles concernent tant les humains que les notes. Comment il croyait à l'inégalité des races, comme il croyait à l'inégalité des races, Schenker croyait à l'inégalité des notes. Fin de citation. Je ne parviens pas pour ma part à déterminer si ces affirmations de Ewell sont naïves ou historiquement mal informées ou consciemment malhonnêtes. Il est en tout cas absolument faux de penser que les lois de la nature dont Schenker parle n'aient rien à voir avec des lois juridiques. Schenker utilise l'expression « Naturgesetze », loi de la nature, pour décrire des lois physiques, notamment les lois acoustiques de consonance et de dissonance, décrites d'ailleurs peu avant par Helmholtz, ou des lois biologiques, lois de l'évolution notamment, mais aussi l'organicisme, auquel Schenker croyait profondément. Et tout cela pour les opposer aux lois de la musique, musicalische Gesetze, Gesetze der Tonkunst, principe de répétition, de fluidité mélodique, etc. Je n'insiste pas sur ces aspects techniques. loi de la musique qui prime pour lui sur celle de la nature. Les lois de la nature, physiques ou biologiques, concernent sans doute les humains, mais beaucoup moins les notes de musique qui dépendent, elles, de lois musicales. Ewell cite donc à ce propos Wayne Allpound, qui a en effet publié plusieurs articles sur les idées juridiques de Schenker. Alpern rappelle que Schenker, qui a obtenu en 1889 un doctorat en droit à l'université de Vienne, y avait suivi les cours de philosophie du droit de Georg Jelinek, qui l'avait fortement marqué. L'idée de justice de Jelinek était fondée sur un équilibre plutôt que sur une égalité des forces et sur une évaluation des mérites individuels et des circonstances. Schenker n'a cessé de souligner l'inégalité du poids structurel des divers éléments qui forment la musique. C'est le fondement de sa méthode d'analyse musicale, mais qui n'a rien à voir avec son nationalisme. Il ne s'agit pas ici de loi naturelle, mais bien d'une sorte de droit naturel, ce qui n'est évidemment pas la même chose. La tension entre l'égalité et la justice, écrit encore Alpern, était une préoccupation centrale de la jurisprudence allemande du XIXe siècle. Cette tension entre égalité et justice, ce droit naturel, est sans doute aussi une préoccupation implicite peut-être, mais importante, de nos débats au cours de ces deux journées. L'idée de l'inégalité des notes est vraie en particulier pour la musique tonale, la seule dont s'occupe Schenker. Elle est aussi vraie, en réalité, pour toutes les musiques du monde. Leonard Meyer, dans Explaining Music, cite Herbert Simon, écrivant, je cite à nouveau, « S'il existe dans le monde des systèmes importants qui sont complexes sans être hiérarchiques, ils pourraient échapper dans une large mesure à nos observations et à notre compréhension. L'analyse de leur comportement demanderait une connaissance et un calcul si détaillés des interactions de leurs parties élémentaires qu'ils excéderaient nos capacités de mémorisation ou de calcul. » Et Meyer lui-même ajoute, « Ceci est particulièrement important dans la compréhension de la musique, qui, parce qu'elle est abstraite et se déroule dans le temps, place des exigences extraordinaires sur la mémoire. » Toute musique, à l'exception peut-être de la musique sérielle dodécaphonique, et encore, toute musique est tout entière hiérarchique. Son hiérarchie se reflète notamment dans le vocabulaire de sa description, sous différentes formes suivant les langues, mais toujours présentes d'une manière ou d'une autre. Les notes sont aiguës ou graves, elles sont hautes ou basses, longues ou brèves, accentuées ou non. Les intervalles sont justes ou faux, majeurs ou mineurs, consonants ou dissonants. Les tempi sont lents ou rapides, et même, mais il n'y en a peut-être pas lieu d'être trop fier de cette terminologie-là, et même les cadences sont masculines ou féminines. Bruno Moisan nous en parlera dans un instant. La hiérarchie des notes et celle des rythmes, des phrases, des motifs, des thèmes est peut-être un élément de la définition même de la musique. Elle me paraît n'avoir rien à voir, ni chez Schenker ni ailleurs, avec des théories raciales supposées. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Je vais à présent céder la parole à Bruno Moisan, professeur de musique au lycée Marceau de Chartres, membre du programme Council de l'Institut national Frédéric Chopin polonais et de l'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique de l'Université de Montréal. Bruno Moisan a également enseigné les relations musique et politique à Sciences Po Paris, de 1998 à 2010, et au Conservatoire national de musique et de danse de Paris, de 2007 à 2009. Il va nous présenter l'ouvrage de Suzanne McClary, Ouverture féministe, musique, genre, sexualité.
Vous m'entendez, c'est bon ? Alors, je suis quand même un peu novice dans ces questions de féminisme, de questions woke, etc. C'est un domaine un peu nouveau pour moi, mais qui m'intéresse quand même beaucoup. D'abord parce que tout le monde en parle, donc à un moment, il faut bien s'en occuper un peu. Alors, moi, je me suis intéressé plutôt aux questions décoloniales, en fait. J'avais fait un article pour pour un numéro de préparation à l'agrégation sur les questions décoloniales, postcoloniales, etc. Et puis alors, avant, alors, mon intervention est calibrée sur 8 minutes, mais je pense que je vais prendre une minute de plus quand même, pour je m'étais, il y a quelques années, intéressé à Judith Butler. Et alors, justement, j'avais fait une intervention au Canada, à Montréal, donc je m'étais dit, tiens, je vais prendre un sujet un peu tendance. C'est vrai qu'à Montréal, Judith Butler, c'est assez tendance quand même. Et puis je m'étais dit, tiens, mais plutôt que... Et j'avais proposé le sujet suivant. Dans quelle mesure Judith Butler est utile aux musicologues en dehors des questions de genre, des questions de troubles dans le genre, des questions LGBT, queer, etc., etc. J'avais fait exprès, évidemment. Bon. Et puis, en fait, mon intervention terminée, je me suis fait insulter. Alors, j'étais ravi, évidemment. Et donc, probablement une doctorante avec des cheveux rouges vifs, un espèce de treillis un peu militaire et puis des Santiago énormes, se lève. Alors moi, je me sens tout petit, évidemment, et puis elle dit à tout le monde, ce que vient de dire ce monsieur est un scandale intellectuel. Je commence à me dire, oh, ça commence à devenir très intéressant. Et puis, donc, je lui demande un peu pourquoi, etc. Elle dit, mais c'est oser traiter de Judith Butler dans un contexte académique en évacuant volontairement les questions de féminisme, de genre, de troubles dans le genre, de métamorphose identitaire, etc., est un véritable un scandale intellectuel. Elle n'avait pas parlé d'imposture, elle avait vraiment montré que ça n'était pas permis. Alors, en fait, moi, ce qui m'intéressait, je suis pas venu vous parler de ça, mais donc chez Judith Butler à cette époque-là, c'était la façon dont elle avait développé un mélange de théories, mais aussi de modes d'action, de perturbations systémiques d'un environnement. Et comme moi, j'avais écrit un livre qui s'appelait « Lis virtuaux subversifs » et que moi aussi, je m'intéressais aux mécanismes de perturbation systémique d'un environnement, donc forcément, Judith Butler m'intéressait beaucoup. Et donc, forcément, alors je ne sais plus, je m'arrange dans l'échange pour glisser le mot-clé de trouble, de citer le trouble dans le genre, puis finalement, avec un sourire absolument angélique, donc à ce moment-là, je me transforme en fée clochette, je mets des lumières, je mets de la lumière bleue, de mordoré, etc., dans tout l'amphi, etc. Je ne suis pas sûr que ça ait très bien marché, mais... Et puis, à ce moment-là, je lui dis, donc finalement, je vous ai troublé. Et à ce moment-là, la jeune femme se métamorphose, se liquéfie, et puis elle se rassoit, et puis ça a été fini. Voilà. Donc, mais je pense que c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'une dimension, c'est-à-dire qu'il y avait un côté inquisitorial, c'est-à-dire je n'avais pas le droit de m'intéresser à Judith Butler en fonction de ce qui m'intéressait moi. C'est-à-dire moi, les questions de genre chez Judith Butler, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais par contre, quand dans le documentaire très connu, elle raconte « Mes parents avaient des cinémas à Cleveland, ils étaient d'origine polonaise et j'ai vu ma mère se métamorphoser en imitant Ava Gardner et mon père en imitant Clark Gable », moi je trouve ça passionnant. Et c'est très intéressant en soi. Bon, alors moi, le reste ne m'intéresse pas, mais ça m'intéresse. Et donc, j'ai fait ça, et ça n'a pas passé du tout. Et donc, il y a une dimension vraiment presque autoritaire. Voilà. Alors, au risque d'être un peu dissonant, le livre de Suzanne donc, McClary, Ouverture, féministe, musique, genre, sexualité, tout ça au singulier, musicologie critique, eh ben, en fait, malheureusement pour moi, j'ai aimé le livre, en fait. Enfin, ça ne va pas m'empêcher d'être un peu désagréable, mais c'est vrai qu'au départ, le livre m'a séduit. Le voilà. Édité par la Philharmonie de Paris, ce qui a quand même, à mon avis, une forme de valeur d'institutionnalisation aussi. C'est la Philharmonie qui l'édite. Hein. Alors pourquoi j'ai aimé le livre ? Alors d'abord parce que j'ai retrouvé un peu du climat pensée 68, années 70, dont je suis un peu nostalgique. Moi, je trouve que ça manque. Alors ça n'engage que moi, mais donc tel quel la chinoise de Godard, la jeune Kristeva, recherche pour une sémanalyse, la révolution du langage poétique. Pour nous, les musiciens, la revue Musique en jeu. C'était quand même une période d'exaltation théorique qui mettait dans un état de folle ébriété conceptuelle dont Marcel Gauchy a dit dans La Condition historique qu'on en était sorti avec la gueule de bois. Il le dit, Marcel Gauchy, il dit on en est sorti avec la gueule de bois. Alors, je paraphrase un peu la citation, mais le mot de gueule de bois, je m'en souviens comme le moment de ma première lecture. Et derrière cette ivresse, finalement, un côté clé en main pour penser la totalité de l'existence humaine tout en ayant l'impression de tout inventer. En gros, finalement, c'est assez simple. Il y avait Marx pour le social, Freud et Lacan pour la subjectivité, la sémiolinguistique pour le langage. Vous mettiez tout ça ensemble avec une espèce de poésie conceptuelle qu'on ne comprenait pas forcément dans sa totalité, voire même pas beaucoup, mais ça marchait très bien. Et l'ouverture féministe est pour moi totalement dans cette continuité trinitaire où on tente de saisir en même temps le social, la subjectivité et le langage, et ici le langage musical. Ensuite, Suzanne McClary a un projet de fond qui a longtemps été le mien et qui l'est toujours un peu, même si j'ai beaucoup évolué, etc., qui est de faire parler historico-sociologiquement le texte musical lui-même, en ne se contentant pas de faire de la sociologie de la musique purement externaliste ou de la pure analyse ou histoire du langage musical en évacuant la société ou en tout cas en la mettant très loin. Parce que, si vous voulez, notre situation en musicologie est un peu différente, par exemple, de l'histoire littéraire, parce qu'on se heurte assez souvent à la musique sans mots. Et donc, on a à gérer méthodologiquement une véritable coupure entre l'externe et l'interne. Mais ça, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure si on a le temps. Voilà. Bon, il n'en reste pas moins quand même que pour moi, l'ouvrage suscite plusieurs questions majeures. Alors d'abord, la question de l'idéologie et du rapport au réel. Alors moi, je ne suis pas tellement philosophe, et je ne suis pas sûr que ma définition soit très sophistiquée, mais une idéologie, c'est une élaboration issue du regard de l'homme sur la réalité, plutôt formalisée conceptuellement, en ayant un certain niveau d'abstraction, mais qui, par le processus de sélection qu'elle opère dans le donné multiforme de la réalité, produit une image de la réalité faite de distorsions, qui finissent par faire écran à la perception et à l'analyse que l'on espère toujours aussi juste que possible de cette même réalité. Il y a toujours une part de vrai et de familier, sachant que le familier n'est pas toujours vrai, dans une lecture idéologique, sinon on ne tomberait pas dans le panneau. Parce que le problème de l'idéologie, c'est qu'elle réussit dans un certain nombre de cas, et que c'est ça le problème. Donc en fait, il faut aussi toujours se poser la question, pourquoi cette idéologie-là a marché? Pourquoi tant de gens sont tombés dans le panneau? Ce qui est quand même, à mon avis, la question essentielle. Ensuite, l'idéologie produit une rhétorique et un cadre, à partir de lesquels la conscience se projette sur la réalité, ce qui crée à ce moment-là une forme de circularité qui conduit à voir dans la réalité ce que la rhétorique et le cadre nous conduisent à voir. Elle construit aussi une position d'autorité, et elle a une fonction d'intégration sociale, structure des groupes et des communautés, des mécanismes de cooptation, y compris, et probablement beaucoup, dans le champ universitaire. L'idéologie a une incontestable fonction intégratrice, y compris en termes de carrière, de trajet de carrière. Alors après, on peut très bien l'utiliser sans y croire, si ça permet d'avoir un poste, allons-y. Bon, alors, ouverture féministe est-il le produit et le véhicule d'une idéologie? Alors les deux citations qui suivent, qui sont courtes, semblent quand même un peu aller dans ce sens. Première citation, en croisant les esthétiques et les époques, Suzanne McClary nous montre comment la musique peut servir l'ordre du genre, c'est-à-dire la division du monde en masculin et féminin, ainsi que la hiérarchisation entre les deux termes. Une réalité qui affecte la vie quotidienne des hommes et des femmes qui façonnent leur corps et leur identité. Alors ça, c'est tout simplement la page de couverture. Deuxième citation, s'inscrivant en faux contre la musique pure, McClary soutient que la musique, même dénuée de texte, est un discours signifiant, un discours qui convainc et manipule d'autant mieux les auditeurs qu'il le fait le plus souvent à son insu, d'où la nécessité politique de dévoiler ses mécanismes. Et ça, c'est l'introduction de Catherine Deutsch, notre collègue, qui a traduit le livre pour sa version française. Alors, impossible pour la musique d'échapper au fait qu'elle sert l'ordre du genre et la hiérarchisation entre ces deux termes. Comme le disait Pascal Perrineau hier au sujet du politique, la musique se retrouve privée de toute forme d'autonomie. Elle n'est plus qu'un reflet acteur des rapports de domination de la société qui sont cristallisés en idéologie. Mettre en évidence la dimension idéologique de la gender theory demanderait de très longs développements. En plus, ça a été fait, et puis j'ai pas le temps. Mais on peut dire en quelques mots que, ouvrez les guillemets, la nécessité politique de dévoiler les mécanismes d'un discours qui convainc et manipule les auditeurs le plus souvent à leur insu présuppose que tout sujet qui construit sa culture à partir de la division du monde en masculin et féminin est victime d'une aliénation genrée et que ce désaliéné passe obligatoirement par une remise en cause de l'ordre du genre. L'auteur construit clairement une position de pouvoir discriminante et dissymétrique entre les éveillés, ceux qui dévoilent, ceux aussi qui acceptent de prendre conscience du dévoilement dévoilé par le dévoileur, en l'occurrence ici la dévoileuse ou la dévoilatrice, je ne sais pas trop comment dire, et les autres. C'est tout le sens du premier chapitre sur le château de Barbe Bleue. Ces autres sont invités à rentrer dans cette rhétorique et ce cadre interprétatif, et s'ils le refusent, sont des aliénés, des déviationnistes, et ne peuvent être cooptés dans la communauté des éveillés. Question que je ne peux développer, mais qui me semble, enfin, en tout cas, il faut la poser. Alors, j'ai vu qu'elle a un peu effleuré dans les débats hier, etc. Bon, moi, je regardais ça en visio et pas tout le temps, puisque j'étais chez moi, mais, et puis surtout, je devais venir ici. Mais globalement, je me demande quand même si toutes ces idéologies interconnectées ensemble, sous la forme de ce qu'on appelle l'intersectionnalité, ne seraient pas une forme de lysenkisme, mais spécifique à une culture d'infrastructure libérale, ou néolibérale, alors, moi, on ne va pas se chevailler sur le terme, et probablement post-protestante. Huntington, dans « Qui sommes-nous ?», a des pages passionnantes sur l'infrastructure protestante de la culture nord-américaine et qui serait désormais et de plus en plus celle du bloc euro-nord-américain. C'est-à-dire que, si vous voulez, on voit bien une unification culturelle entre les deux parties de l'Atlantique et on peut se demander si, finalement, le bloc euro-atlantique ne produirait pas une forme de lysenkisme spécifique qu'il faudrait étudier. Alors, deuxième problème soulevé par le livre, et je vais aller quand même très vite, la question de l'articulation entre le social et le musical, qui est d'ailleurs, alors là, c'est général à toute sociologie de la musique, mais dans le livre, c'est particulièrement prégnant. La deuxième citation est intéressante, car elle pose une pétition de principe que la musique est obligatoirement signifiante et qu'elle signifie obligatoirement un social qui serait sédimenté dans sa grammaire, sa syntaxe, et un social obligatoirement genré, construisant obligatoirement des dissymétries oppressives entre le masculin et le féminin qui opprimeraient les minorités racisées, etc. Bon, alors en musicologie, les débats querelles, les discussions sur la dimension signifiante de la musique, sans mots, c'est un véritable serpent de mer. Donc je ne vois pas comment on peut prétendre, on ne peut pas clore le sujet de la signification ou non de la musique sans mots d'une manière aussi carrée et aussi abrupte. Deuxième problème, quel social est sédimenté dans la musique et détermine, façonne la musique sans mots? Parce que, bon, de l'instant que vous avez des mots, c'est déjà un peu plus simple. Et quand vous avez affaire à un quatuor à cordes, il est où le social? Comment on l'interprète? Comment on fonctionne? Quelle méthode? Enfin, voilà. Alors, on peut faire crédit, c'est pour ça que j'aime bien le livre, quand même, à Suzanne McClary, d'une véritable audace, en ayant le courage de se lancer dans une herméneutique sociologisante de la musique et qui plus est de la musique sans mots. Mais en même temps, il ne faut pas être dupe. Ce parti pris est assez sécuritaire. Car en définitive, on ne peut le critiquer. Et en fait, on est obligé de suivre Suzanne McClary dans ses déductions à partir du moment où on accepte, comme elle, que la musique est un discours qui convainc, manipule d'autant mieux les auditeurs, à son insu, à leur insu, etc. On revient toujours à la dichotomie aliénée-éveillée, c'est-à-dire si je ne rentre pas dans son jeu, bah, je suis fichu. Et si l'on n'accepte pas aussi la nécessité politique de dévoiler ces mécanismes, on est de facto mis du côté des aliénés ou de ceux qui veulent maintenir les structures d'oppression. Donc on est coincé. En fait, la stratégie, c'est de piéger l'opposant. Troisièmement, et ça sera je terminerai là-dessus, la question de la construction de la toile de fond historico-sociologique qui détermine, au sens même pratiquement marxiste, si vous voulez, une musique, laquelle ne peut échapper au fait d'être signifiante, des déterministes, il y a l'ordre du genre, etc. Dans la plupart des cas, dans le livre, la toile de fond est construite en fait en fonction de la démonstration. On le voit dans les développements sur Carmen, sur la 4e symphonie de Tchaïkovski, Suzanne McClary pose des généralités. Exemple, pour Carmen, la société française de 1875 est hétéropatriarcale et colonialiste. Bah oui, c'est assez vrai quand même. Bon. Mais qui sont loin de résumer tous les déterminismes façonnant la musique de Bizet, y compris la façon dont Bizet va jouer dans ses déterminismes, etc. A l'inverse, après la macrostructure, on bascule tout de suite, sans médiation, vers des micro-analyses de détails qui sont censées débusquer dans le texte musical lui-même la trace de ces déterminismes façonnants, lesquels sont présentés en même temps et à leur tour comme les éléments de langage qui vont construire dans la société globale un ordre genré. En fait, le système est totalement circulaire. Il est circulaire, en fait, donc on ne peut pas en sortir. Vient s'ajouter à cela, pour moi, et c'est important aussi, la question de la littérature qui vient légitimer la construction des objets. Dans le chapitre sur la folie féminine, Suzanne McClary utilise l'histoire de la folie à l'âge classique de Foucault, mais qu'elle prend complètement au premier degré, presque comme un credo ou un acte de foi, parce que vous ne pouvez ni vous tromper ni nous tromper, sans prendre en compte toute une littérature critique qui a montré toutes les approximations, les contre-vérités, les interprétations abusives, les torsions du réel, les déductions hasardeuses faites par Foucault. Enfin, oui, c'est quasiment la Bible au Moyen-Âge. Enfin, voilà, moi, j'ai rien contre la Bible et rien contre le Moyen-Âge, mais enfin, elle prend Foucault au premier degré, donc du coup, c'est un peu inquiétant. Il y a enfin un dernier problème, qui est la diversité des exemples et des situations utilisées, et qui, dans leur diversité, sont censés être la preuve d'un ordre social genré, général et permanent. En fait, elle multiplie les exemples situés dans des époques différentes, dans des civilisations différentes, avec des répertoires différents, qui, en fait, sont censés refléter tous la permanence de l'ordre genré, hétéropatriarcal, aliénant, etc. Alors, moi, j'ai rien contre le fait, c'est assez virtuose, d'ailleurs, de passer de l'Orfeo de Monteverdi à Carmen de Bizet, de la 4e symphonie de Tchaïkovski à Madonna, de Lucia de Donizetti à Salomé de Strauss, c'est vertigineux. Mais Suzanne McClary, enfin, c'est pour moi qui lui en voudrais, je le comprends, ne peut pas maîtriser l'érudition propre à des objets d'études aussi hétérogènes et aussi divers, et qui sont avant tout pour elle de simples objets témoins, d'où des anachronismes, des approximations, des caricatures, des généralités assez banales. Paradoxalement, les lacunes d'érudition construisent la solidité apparente de la démonstration dans la mesure où, en fait, l'absence de ces petits os que toute lecture érudite fait fatalement surgir fait que rien ne vient entraver la circularité de la démonstration. Alors maintenant, en 30 secondes, même pas, reconstruire. Alors, je ne parle que pour moi. Donc, je ne cède pas à la pression. J'accepte de prendre des coups. Même si j'ai aimé le livre, et c'est vrai, je le dis franchement, elle est brillante, elle est intéressante, je veux bien, et même si je veux bien apprendre des autres. C'est-à-dire, moi, j'ai ouvert le livre en me disant, ben, je vais apprendre quelque chose et je suis prêt à me laisser transformer, mais je refuse d'emblée d'être figé dans la position de l'aliéné qui doit se laisser éveiller. Je regrette, mais moi, je ne suis pas la Belle au bois dormant. Voilà. Ben, je vous remercie.
Merci. Alors, pour lancer la discussion, comme nous avons la chance d'avoir Bruno Chaoua avec nous, on va lui céder la parole pour qu'il entame la discussion. Bruno Chaoua est professeur à l'Université du Minnesota et vient de publier L'homme trans chez Léo Cher.
Merci infiniment. Alors, c'est complètement improvisé, je n'étais pas supposé être là, mais comme j'ai suivi de très près depuis les États-Unis l'affaire Timothy Jackson dont a parlé Nicolas Meuss, peut-être que je peux dire, peut-être faire trois remarques simplement sur cette affaire. Première remarque, c'est une précision peut-être de circonstance, à savoir que après la conférence plénière de Philip Ewell à la Société de Music Theory, Timothy Jackson a décidé de faire un numéro spécial de sa revue, qui est la revue d'études schenkerienne. Et dans ce numéro spécial, que j'ai lu d'ailleurs, il a inclus des critiques très très fortes contre Schenker, en sorte que ce n'était pas un numéro spécial d'apologie de Schenker, mais un numéro véritablement scientifique qui consistait à donner la voix et la parole à des gens qui sont très critiques de Schenker. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il y a chez Philip Ewell et quelques autres musicologues, beaucoup en fait de théoriciens de la musique qui veulent décoloniser la musique ou ou pratiquer une sorte de politique, disons, d'inclusion. Il y a quelque chose qui me gêne énormément, et c'est qu'ils veulent inclure notamment des musiques, de, par exemple, de rap ou des musiques populaires contre lesquelles je n'ai rien, mais qui produisent cet effet de aller vers, ou donner l'impression d'aller vers des publics qui n'auraient pas la capacité, finalement, de s'élever à la musique classique, à la musique de Schumann, ce qui donne un sentiment d'extrême condescendance. Je crois que ça a été abordé ce matin, peut-être, dans la table sur l'éducation, je ne sais plus maintenant quand est-ce que c'était, mais disons que ça paraît extrêmement gênant, parce que je pense que l'éducation, et l'éducation à l'art et aux arts, en particulier à la littérature et à la pensée, nécessite justement une défamiliarisation. Et je crois que ce qui se passe, c'est qu'on essaye de reterritorialiser, de refamiliariser des élèves qui sont dans des classes, par exemple, urbaines. Je parle toujours des États-Unis, où il y a beaucoup d'enfants ou de jeunes en difficulté dans certaines écoles urbaines. Et au lieu d'essayer de les défamiliariser en les exposant à de la littérature plus savante ou à de la musique savante, on les conforte finalement dans ce qu'ils ont déjà chez eux ou dans leur vie quotidienne. Alors ça, c'est quelque chose qui me gêne énormément. Il y a une troisième chose, une troisième remarque, deux mots simplement, c'est que l'idéologie dont nous parlons, dont vous avez parlé sur McClary par exemple, s'insinue d'une manière que je trouve extrêmement perturbante dans la relation intime que nous pouvons avoir avec la musique ou avec l'art ou avec la littérature. C'est-à-dire que finalement, elle nous, ce genre d'idéologie, ce genre d'approche nous empêche ou essaye de nous, ou veut nous empêcher finalement de jouir de la musique, de jouir de l'écoute, en prescrivant telle ou telle chose, c'est pas bien, telle et telle musique. Là, on parlait de, vous n'avez pas parlé, je crois, de Beethoven, mais je pense qu'elle fait une critique assez forte de Beethoven. comme une musique, disons, masculine, violente, etc. Donc, ce genre d'approche, si vous voulez, s'insinue dans le rapport intime que nous avons, c'est-à-dire au plus près de l'esthésis, de l'esthétique. Et là, il y a quelque chose que je trouve absolument déplorable, et c'est ce qui m'a gêné le plus, je crois, dans l'affaire Timothy Jackson et dans les critiques de Schenker, c'est que tout à coup, on nous disait « ne jouissez plus d'un quatuor de Beethoven, ne jouissez plus d'une sonate, parce que si vous jouissez de cette sonate, si vous l'écoutez, que tout à coup quelque chose se passe et vous transforme, alors c'est que vous êtes dans une politique, dans une idéologie, disons, raciste, hiérarchique, sexiste, etc. Et donc, je vais finir là-dessus simplement, peut-être pour lancer la discussion. C'était ces trois points que je voulais faire.
Merci. Merci. Merci, Dania, du tableau que tu as fait pour l'évolution des politiques culturelles, hein, parce qu'on est aussi... Bon, y a un domaine qu'on n'a pas du tout abordé, mais qui est aussi très influencé par les courants ambiants, c'est par exemple la mise en scène d'opéra.
Oui.
La mise en scène d'opéra, ça pourrait être l'objet d'un sujet en soi. Enfin, c'est à mon avis, bon, on n'a pas trop le temps, mais il y a ça. Puis alors, c'est vrai que, j'ai pas dit, mais j'y pensais, à mon avis, l'un des passages les plus intéressants et qui fait le plus réfléchir sur la question de la relation entre langage musical et ces idéologies contemporaines, c'est le passage sur Tchaïkovski. Parce que, et c'est en ça que, si vous voulez, je suis assez partagé, parce qu'elle a quand même aussi un certain courage, parce qu'il faut oser aborder avec des problématiques comme ça le premier mouvement, la quatrième symphonie de Tchaïkovski, qui n'a aucun mot. Si on prend par exemple la division en segments de la société, par exemple de la littérature, dans les études littéraires, par exemple, je ne sais pas, on peut essayer de définir une littérature lesbienne, par exemple. Bon, il y a des grands auteurs des années 1900, déjà, mais on a des mots, on a des expressions, mais dans le cas de la musique et d'une symphonie, ça devient beaucoup plus compliqué. Essayons de définir un quatuor de gay. Non mais je plaisante pas du tout, c'est compliqué. Déjà avec la quatrième symphonie de Tchaïkovski, dans le romantisme, c'est déjà un peu plus facile pour elle parce qu'elle a en fait une musique qui est très psychologisante. Le romantisme est quand même assez psychologique, si vous voulez. Puis bon, quand je dis qu'il n'y a pas de mots, je mens un peu parce que de toute façon sur une partition de symphonie, vous aurez Giocoso, vous aurez des indications d'interprétation, vous aurez un paratexte qui peut un tout petit peu aiguiller. Mais un jour, aller dans une librairie ou à la librairie de la Philharmonie, passer 10 minutes à regarder le chapitre, les pages sur la quatrième symphonie de Tchaïkovski, vous verrez comment elle essaye d'étudier la question d'un compositeur homosexuel opprimé par un patriarcat homophobe de la société russe de 1877 et comment elle le met comment il en fait un premier mouvement de symphonie, donc une forme sonate. Une forme sonate, quand même. Bon, d'accord, c'est une sonate romantique, mais enfin, tout de même. Bon, jusqu'à rentrer dans le langage harmonique lui-même, c'est-à-dire du masculinisme dans des tierces montantes. Enfin, vous voyez, on touche à la grammaire musicale elle-même. Et je pense qu'on arrive aussi, probablement, elle montre aussi la limite aussi probable de ça, parce que, en gros, on est quasiment obligé de la croire, parce que le contre-exemple à trouver est assez compliqué, et le contre-exemple sera aussi compliqué à croire. Donc, voilà.
Je pense qu'il y a un des... Si je peux me permettre, juste un mot. Il y a un livre qui me paraît extrêmement important, que j'avais utilisé dans un article que j'ai écrit sur... Je crois que j'avais utilisé ce livre, sur l'affaire Timothy Jackson, et c'est l'ineffable, finalement, de Yankelevitch, qui est un livre absolument magnifique, où, effectivement, Yankelevitch nous dit la musique... C'est peut-être une banalité hein, pour vous, musicologue, mais la musique, au fond, c'est le silence, c'est l'absence de signification, sauf quand, effectivement, on est dans une musique avec l'opéra, avec du langage. Comment ?
Avec un programme.
Ou avec un programme, exactement. Mais autrement, et c'est pour ça que je trouve extrêmement gênant cette insinuation de l'idéologie, parce que finalement, elle nous empêche dans de cette relation avec l'ineffable de la musique, avec la musique comme silence, avec la musique comme absence de mots et absence de sens. Ça, je crois que c'est extrêmement grave, comme intensité pure, si vous voulez. Et ça, je crois que c'est extrêmement grave.
D'autant que Tchaïkovski a lui-même pratiqué la musique. D'autant que Tchaïkovski a lui-même pratiqué la musique à programme, et s'il a choisi précisément de ne pas donner de programme à cette symphonie, c'est peut-être pas un hasard non plus.
Oui, alors il a écrit un texte quand même, oui. Et dont Suzanne McClary dit que, en fait, elle va s'affranchir de ce que Tchaïkovski dit lui-même.
Ah ben voilà.
C'est-à-dire, on arrive aussi, on est toujours dans la position de l'éveil, c'est-à-dire qu'elle arrive quand même à quasiment dire qu'elle sait mieux que Tchaïkovski lui-même aussi. C'est ce qui est un problème important. Ben oui, c'est un problème d'herméneutique, tout à fait.
Une petite question. Juste avant le débat, vous étiez en train de parler d'une fin de symphonie qui était considérée comme un viol. C'est ça, c'est
la
ça.
La neuvième de Beethoven, le dernier accord.
Le micro.
Je crois que c'est le dernier accord de la neuvième symphonie de Beethoven. Je crois que c'est dans ce livre que Suzanne McClary compare cette élévation, si vous voulez, à la fin, à un viol, effectivement.
Il y a une violence beethovenienne évidente. Je pense
qu'il faut arrêter juste avant.
Il finit par une cadence parfaite, je pense, j'en suis même sûr. Après, comment une cadence parfaite peut être un viol? Enfin, je veux bien, mais... le problème, c'est que peut-être que j'ai des propres résistances à l'éveil, donc en fait, non. Mais en fait, c'est moi qui dois me psychanalyser. En fait. Comment?
Un violon.
Oui, probablement.
Est-ce qu'il y a un peu de temps pour des questions?
Oui, il y a une question.
Merci Pierre-Henri. Non, mais simplement, en vous écoutant, moi, je repensais à des problématiques qu'on évoquait un peu ce matin avec Jean sur la magie de la langue. Oui. Prétendue par les woke. C'est-à-dire qu'on retrouve ici quelque chose qui est assez frappant, c'est pas de savoir si c'est un système total, complet ou partiel, en fait, ce qu'elles proposent. Que l'interprétation existe, il n'y a pas d'ambiguïté. Le problème, c'est qu'elles en font, de ces lectures de métaphores ou de métonymies, une clé d'interprétation qui se veut totale. Et c'est là où, finalement, on se retrouve, nous, coincés dans une impasse rhétorique. Parce qu'à partir du moment où on est confronté à un discours qui prétend changer les individus et qui, sur la base de métaphores comme la violence, par exemple, dont on vient de parler, qui est forcément métaphorique, puisque la différence entre la violence et le dialogue, c'est justement le mot, la médiation du mot. Il n'y a pas de violence dès lors qu'il y a parole, il n'y a pas de violence dès lors qu'il y a échange. C'est une métaphore. Une tempête est violente. Un homme qui frappe est violent. Un discours est violent par métaphore. Et dès lors qu'on adhère à la métaphore, on rentre dans un système qui devient du coup un enfermement. Et on retrouve dans le discours sur la musique ce qu'on entend dire sur la langue, à savoir que la langue orphéique, là, nous change malgré nous, parce que nous adhérons à ces systèmes métaphoriques qui se veulent totaux. Voilà, moi c'était vraiment j'ai été frappé par ce que vous retrouvez dans la musique et de ce que nous entendons nous sur la langue en linguistique, à savoir que la langue nous change malgré nous, que la langue peut empêcher les gens d'être violents, que l'orthographe peut manipuler les gens et les changer. Et là on retrouve vraiment des choses qui sont à mon avis convergentes dès lors qu'il y a une prétention à faire de la figure une clé d'interprétation totale. Vraiment, j'ai été frappé par ça.
Merci.
Est-ce que tu pourrais revenir sur l'expérience de l'émerveillement, qui est déjà encore autre chose que la découverte de l'admirable, qui peut être interprétée comme statique, fixiste, j'admire. Mais peux-tu revenir sur ce que tu as appelé l'émerveillement, le merveilleux, en convoquant bien sûr les belles analyses de Catherine ? Qu'est-ce que le merveilleux ? En quoi la musique nous émerveille ?
Question de philosophe.
Vous m'entendez?
Oui.
Ah, oui, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez reformuler est-ce que c'est la question de la médiation du texte musical ou est-ce que parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, l'émerveillement, tout le problème, par exemple, de la politique de Malraux pensait que l'émerveillement était aller advenir de soi. C'est-à-dire qu'il suffisait de mettre une personne en contact simplement avec une œuvre et ça allait provoquer l'émerveillement. Mais malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Et donc, d'où l'intérêt de l'instruction publique, enfin d'un médiateur, des professeurs pour que ça puisse avoir lieu lorsque ça n'a pas lieu dans un premier temps.
Oui, non mais si vous permettez,
oui.
Le Jouffroy,
oui.
Il y a une admiration fille du savoir. Et là, je trouve que on est au cœur de notre sujet de la reconstruction en chantant.
Oui.
Catherine Kinsler a demandé la parole. Est-ce qu'on peut lui
Catherine,
accorder?
Vous souhaitez...
On peut activer le micro. Oh, oui, juste une seconde. Écoutez, oui, je voulais justement prolonger cette question. Est-ce que vous m'entendez là?
Oui, très bien.
Bien, merci. Et pour faire suite à l'intervention de Bruno Chavois, que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, l'idée de dépaysement, c'est fondamental. Bon, c'est vrai de l'instruction, c'est vrai du savoir, mais c'est vrai de l'art aussi. Aucune expérience empirique, aucun voyage empirique, fut-il dans les étoiles, n'atteint le degré de dépaysement que peut fournir l'expérience littéraire, l'expérience musicale, l'expérience de l'art. Et c'est de ça qu'on n'a pas le droit de priver nos élèves, on n'a pas le droit de priver les auditeurs, quels qu'ils soient. Voilà ce que je voulais ajouter. Et c'est un point qu'aborde David Dinota dans son livre sur l'assassinat de Samuel Paty. Il le dit à la fin, page 144-145, « Sapere aude, ose savoir, se donner pour maxime le siècle des Lumières. L'antiracisme postmoderne lui préfère de beaucoup l'intimation suivante, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas savoir ce que signifie être noir à moins d'être noir, ce que signifie être musulman à moins d'être musulman, ce que ça signifie d'être une femme à moins d'être une femme, etc. Si les expériences étaient intraduisibles les unes dans les autres, on ne voit pas comment un lecteur pourrait comprendre, à moins d'être demi-juif et gay, à la recherche du temps perdu. L'expérience littéraire est la négation même du projet communautariste et différentialiste. Et c'est vrai aussi pour l'expérience musicale. Je crois qu'il en sera peut-être question dans la table ronde suivante. Mais c'est ça aussi qui est important, ce dépaysement, et de ne pas se laisser enfermer dans un statut, dans une assignation qui vous est donnée de l'extérieur. Voilà, c'est ça que je voulais ajouter. Donc l'idée de dépaysement est fondamentale. La littérature et la musique sont déterritorialisées elles-mêmes. C'est une expérience de déterritorialisation et de construction d'un territoire qui est toujours ailleurs. Et c'est à ça que nous devons avoir accès et que nous devons avoir accès grâce à ce qu'on a appelé les humanités. Mais c'est vrai aussi pour la science. Ça a été montré par les scientifiques qui nous en ont parlé. Il faut toujours faire un pas de côté pour atteindre quelque chose qui vous dépasse et pouvoir s'identifier soi-même, devenir ce qu'on est et non pas être fidèle à une assignation qui vous est donnée comme on compose une pizza avec des ingrédients disponibles. Voilà, nous ne sommes pas une série identificatoire, une identité, ça se construit en extraterritorialité. Voilà, et ce sont des individus qui le font. Ces expériences littéraires, cette expérience de l'humanité, elle est fondamentale. Nous n'avons pas le droit d'en priver nos élèves, d'en priver les auditeurs. Voilà, excusez-moi, je me suis un petit peu emportée. Voilà.
Merci à chaque participant à cette table ronde de nous avoir éclairé sur ces problèmes de la musique.
Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, j'invite les participants et l'animateur de la table suivante à s'installer sur les arts et l'humanité et les humanités.